Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. Ce sera à partir de 19h30, mais avant ça, place aux voix de la politique qui sont déjà en train d'affûter leurs arguments. Nicolas Corato et Maxime Thiébaud nous ont rejoints dans le studio de Sud Radio. Nous parlons de cette menace de reconfinement. Faut-il ou non reconfiner? Et surtout, est-ce qu'avec la décision ou la non-décision qu'il s'apprête à prendre cette semaine, Emmanuel Macron est en train de jouer sa réélection pour 2022. On en parle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Les voix de la politique sur Sud Radio avec Nicolas Corato. Bonsoir à vous Nicolas.
Bonsoir Jean-Marie.
Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès publié chez Eredium. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Maxime Thiébaud. Bonsoir à vous Maxime.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Nicolas.
Élève avocat, docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Et si nous allions vers un reconfinement, une seule personne le pouvoir de prendre cette décision, c'est le président de la République. Que retiendra-t-on de la décision qu'il prendra peut-être ou qu'il ne prendra pas cette semaine? Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de jouer sa réélection en ne confinant pas ou alors en reconfinant? En tout cas, pour l'instant, la tension est à son comble et la pression qui pèse sur ses épaules est assez intense.
Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement.
Les services de réanimation de plus en plus sous pression en France.
On a une situation qui pèse beaucoup sur le personnel soignant et qui est inquiétante et on ne s'en cache pas, on dit la vérité.
Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément ce mandat. Je veux le réussir.
Confiner, reconfiner, c'est un acte extrêmement fort avec des conséquences très lourdes.
Je veux réussir ce mandat parce que je veux que notre pays réussisse, parce qu'il le mérite, parce que je l'aime plus que tout.
Ça confine ou ça confine pas, du coup ?
Eh bien justement, ça c'est la réponse à laquelle Emmanuel Macron, président de la République, va devoir répondre cette semaine. Il se donne 48 heures pour prendre ou non des mesures supplémentaires, pourquoi pas davantage de fermeture d'écoles pour endiguer la propagation de l'épidémie. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de jouer sa réélection en repoussant le plus possible le reconfinement ? Maxime Thiébaud.
C'est la grande question. Bon, il faudrait un peu recontextualiser ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Macron, moi, je lui reconnais une chose, et c'est rare que je reconnaisse des choses à Emmanuel Macron, mais c'est qu'il a su tenir face au raisonnement purement sectoriel de nombreux médecins. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconfiné, il n'a pas cédé à la peur du reconfinement immédiat demandé par les médecins. La situation aujourd'hui, elle est très simple. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'éviter une saturation des hôpitaux. Et donc,
qui est déjà là.
Oui, il y a même des débats sur cette histoire de saturation, mais d'éviter en tout cas une saturation et donc un tri des malades à l'entrée, donc des images catastrophiques dans toute la presse française.
Et puis surtout des drames humains avec des gens qui sont des drames humains, etc. Voilà.
Oui, les drames humains, il y en aurait naturellement, et ce serait tragique, et j'aimerais pas que ma famille se trouve dans cette situation à être triée à l'entrée d'un hôpital. Mais il y en a aussi des restrictions qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des étudiants qui se suicident, il y a des gens qui peuvent plus tenir les deux bouts, il y a des entrepreneurs qui n'arrivent plus à financer leur entreprise, et il y a des suicides. Bon, donc les drames humains, ils existent de toute façon, peu importe la mesure qui est prise ou pas prise.
Qu'on confine pas, quoi.
Est-ce qu'on confine ou est-ce qu'on confine pas? La question, c'est est-ce que le confinement marche vraiment? Bon, l'Allemagne nous a prouvé qu'il y avait pas nécessairement besoin de confinement. Ils ont pas confiné, ils ont simplement réduit au maximum les flux. Je pense que le confinement, c'est psychologiquement terrible pour les Français parce que on voit derrière les conséquences psychologiques, le beau temps qui arrive, les beaux jours, etc.
Et fermer les écoles, Emmanuel Macron. Il marque embêté. Des points s'il ne confine pas.
Il,
aux
il
yeux
marque
des, Français.
Des points s'il confine pas. Il marque des points s'il confine. Mais en tout cas, il a perdu des points sur un axe qui est assez simple. C'est celui qu'il a raté la politique vaccinale. Et s'il n'avait pas raté cette politique vaccinale, parce que c'était son pari initialement, c'était de se dire « je confine pas, je joue un petit peu ce statu quo avec un couvre-feu et puis pratiquement tout est fermé sauf l'essentiel. Et derrière, j'attends la vaccination pour avoir une immunité et ne pas être obligé de confiner intégralement et durement. » Bon, le problème, c'est que là, il arrive au bout de cette logique parce qu'il a raté la politique vaccinale.
Elle a marché pour les personnes, on en parlait à l'instant sur Sud Radio avec le professeur Bruno Megarman, elle a marché pour les personnes de plus de 80 ans qu'on voit très peu en réalité. Animation et qui sont très majoritairement vaccinés. Pour les autres, elles attendent toujours leur injection. Il marque des points ou pas, Emmanuel Macron, pour vous, Nicolas Corato ?
Je ne suis pas d'accord avec Maxime. D'abord, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, il peut réussir, il peut échouer, mais c'est pas ça qui le fera gagner nécessairement l'élection présidentielle au moment où elle se déroulera. D'abord parce que la mémoire collective est ce qu'elle est. On sera peut-être passé à complètement autre chose. En tout cas, je nous le souhaite. Peut-être pas. Et dans ce cas-là, on lui reprochera d'y être encore. Mais ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a pris un risque majeur. Je dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il n'y a pas d'autres musiciens que lui. C'est l'homme orchestre. Hein, c'est Rémi Bricard. N'est-ce pas, notre ami Emmanuel Macron, il a choisi d'être seul à bord, de prendre toutes les décisions, de jouer de tous les instruments et de décider quelle est la partition. Et donc, il a pris son risque seul. C'est, ce qui est certain, c'est que lui seul assumera la sortie ou l'échec de la crise, de la gestion de la crise sanitaire. Et ça, c'est un choix quasiment unique au monde. Quasiment unique au monde.
Pourquoi ?
Parce que Emmanuel Macron joue à plein tube le régime de la Ve République, qu'il ne s'appuie pas sur son gouvernement, qu'il ne s'appuie pas sur le Parlement, qu'il ne partage pas, qu'il s'est enfermé dans un conseil de défense, qu'il a finalement mis au pinacle, puis marginalisé un conseil scientifique. Cette histoire, c'est l'aventure d'un homme seul. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs dizaines de millions de peuples à être suspendus à la décision d'un seul homme. Et ça, c'est une responsabilité majeure. Je pense que si Emmanuel Macron gagne ou perd cette élection, il la perdra sur ce rapport-là aux Français. C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu raison de faire confiance à un homme seul pour nous sortir de cette crise ? Moi, quand j'ai entendu parler du pari, du coup de poker avec des trémolos dans la voix des supporters d'Emmanuel Macron, je me suis dit, mais dans quel monde on vit ? Quel est cet artifice qui peut nous faire croire réellement qu'un seul homme, aussi brillant soit-il, et moi je crois qu'il est brillant, pourrait tout seul nous sortir d'une pandémie qui, historiquement, n'a aucun équivalent. C'est du délire. On vit dans Disneyland. La France est devenue...
Mais vous, c'est le régime qui vous énerve plus que l'homme.
Mais
en fait.
C'est pas le régime.
C'est l'utilisation du régime par l'homme.
C'est l'exercice qu'il en fait. Et c'est ça qui va... Je vais vous dire...
Enfin, est-ce que François Mitterrand était profondément un grand démocrate, un très grand démocrate et adepte de la séparation des pouvoirs ?
Je ne suis pas persuadé... On va pas faire de l'Uchronie. Je ne suis pas persuadé que quelqu'un comme François Mitterrand, que quelqu'un comme Jacques Chirac ait utilisé les pouvoirs de la Ve République de la même manière qu'Emmanuel Macron les utilise aujourd'hui en cas de pandémie. Je
François
pense
Mitterrand
notamment
leur... changer le mode de scrutin des législatives justement pour empêcher son opposition.
Non, mais par exemple, je pense que ces gens-là, par culture, se seraient beaucoup plus attachés aux élus locaux. Je pense qu'ils se seraient beaucoup plus appuyés sur les territoires. Je pense aussi qu'ils avaient une gestion de l'État et de la haute fonction publique qui était, pour le coup, un tout petit peu plus sévère. Et il prenait des décisions de sanctions quand les choses n'allaient pas et que ça allait beaucoup plus vite. Je rappelle quand même que ça fait plus d'un an qu'on est dans cette crise. On a peu ou prou le même ministre de la Santé, on a peu ou prou le même Premier ministre et on a le même directeur général de la Santé. Donc, c'est vraiment l'affaire d'un homme seul face à une population, face à son peuple. Et peu importe, d'une certaine manière, le résultat ou l'échec de sa politique... C'est lui qui décide qu'il sera jugé, et lui tout seul, par le peuple français. Et donc, il prend un risque monumental.
Et ça peut gagner.
Mais il nous fait courir aussi un risque monumental. Moi, mon souci, ce n'est pas qu'il gagne ou qu'il perde l'élection présidentielle. Moi, mon souci, c'est qu'on prenne les bonnes décisions pour sortir de cette pandémie.
Alors,
Maxime Thiebaud.
C'est très juste sur la question des pouvoirs. Et je suis entièrement d'accord. On retrouve ici, en fait, l'exercice des pouvoirs par le général de Gaulle dans les événements d'Algérie, qui est devenu la guerre d'Algérie. Le général de Gaulle a fait un usage seul des pouvoirs après un parlementarisme qui avait échoué. Oui. La seule différence, qui est fondamentale, c'est qu'il n'a pas enfreint aux libertés fondamentales des Français, aux libertés publiques des Français, en tout cas sur le territoire de la métropole.
Pardon, épisodes de répression, d'une part, en Algérie, et d'autre part, même quelques barbouzeries pendant la guerre d'Algérie sur le général de Gaulle.
Je dis pas, tu vois, il n'y a pas eu des choses en Algérie, c'est pas ça la question.
Non, mais
la question, c'est
sur
qu'il
la métropole
pas eu,
non plus.
Non, mais sur la métropole, il n'y a pas eu des mesures de restriction générale et absolue pour l'ensemble de la population, tel un confinement ou un couvre-feu, qui aurait amené à ce que les Français en discutent pas. Je suis convaincu que ces solutions-là n'auraient certainement pas tenu à cette époque et que les Français auraient demandé à être consultés. Et je pense que le général de Gaulle, pour le coup, aurait consulté les Français s'il avait été dans l'obligation de mettre un couvre-feu ou un confinement, c'est important. C'est la question qu'on connaît aujourd'hui avec Emmanuel Macron, et c'est son logiciel, c'est qu'il n'est plus dans une rencontre de la volonté générale, c'est-à-dire de savoir est-ce qu'il est poursuivi par le peuple ou pas dans la politique qu'il mène, il est dans une question d'acceptabilité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de transformer le peuple pour que ce dernier accepte les mesures qu'il leur impose. Et c'est là où je peux être d'accord avec la logique d'Emmanuel Macron de vouloir, parce que je suis gaulliste et donc je pense qu'à un moment, il faut un homme seul face aux événements pour diriger le pays, mais je suis en complet désaccord avec lui sur le fait qu'il ne consulte pas les Français, sur les mesures de restriction qu'il prend, et qu'il est en train de jouer avec de la communication. On a vu qu'il a fait venir des cabinets de conseil américains et français, enfin pour des millions d'euros, afin de trouver la meilleure mesure d'acceptabilité qui lui permette finalement derrière de jongler. Et ça, c'est problématique. Et je suis d'accord avec le fait qu'on...
Aussi.
Oui, c'est de la politique, mais le général de Gaulle avait un respect des institutions, et avait un respect très simple, en fait. Déjà, c'est les institutions qu'il a mis en place, mais il avait un respect de la souveraineté nationale, et il l'a prouvé en partant en 69, et il l'a prouvé par les accords d'Évian. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut du général de Gaulle, mais en tout cas, il l'a prouvé dans ses actes.
Mais vous parliez justement, juste pour reciter quand même un événement historique qui avait vraiment eu lieu, vous disiez qu'il n'y avait pas on n'avait pas attenté aux libertés publiques en métropole sous son pouvoir. Une manifestation le 17 octobre 1961 en plein Paris, réprimée par le préfet Papon, 200 morts quand
non,
même.
Non mais ça, je suis d'accord.
Mais ça, même Emmanuel Macron l'a
pas. Je préfère quand même clarifier juste là-dessus. Non mais honnêtement, parce que je ne voudrais pas être attaqué là-dessus. Ouais. Qu'il y ait eu des mesures attentatoires aux libertés fondamentales sous le général de Gaulle, oui. Mmh. Et moi, c'est une manifestation et je pense que la France n'a pas regardé encore ce qui s'est passé, n'a pas fait son travail sur cette manifestation qui a été attentatoire aux droits de l'homme. Ouais. Et moi, c'est une des manifestations pour lesquelles je demande la vérité historique. Mais je parle là, ici, et je parle de mesures absolues et générales sur l'ensemble du territoire et sur le très long terme. Donc,
vraiment, je veux pas cette probablement, confusion. Effectivement.
Il aurait demandé par référendum. Nicolas Corrado.
Moi, je reviens à. Par rapport à l'acceptabilité, à l'extrait que l'excellent Jamel nous a diffusé tout à l'heure.
Jamel Abdelhak, réalisateur des Vraies Voix qui font bouger la République,
du président de la République qui dit que cette élection présidentielle, ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est sortir de la crise. Moi, je crois qu'il y a une grande part de vérité dans cette parole présidentielle, dans le sens où, à mon avis, la problématique d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de préparer sa réélection en 2022, bien qu'il y pense tous les jours, tous les soirs, tous les matins, c'est de finir son mandat. Je pense que quand on est au pouvoir dans des conditions telles que celles-ci, et quand on s'est tellement engagé personnellement vis-à-vis de son peuple sur des résultats, sur un pari, sur un coup de poker, la vraie question qu'on doit se poser tous les matins en se rasant, c'est est-ce que je tiendrai encore une paix civile dans des conditions de crise sanitaire que nous les connaissons, encore une semaine, encore un mois, encore un an. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que je pense même, et je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, mais... que Emmanuel Macron doit penser également à des précédents historiques. C'est-à-dire que, quoi qu'il fasse, qu'il réussisse ou qu'il échoue, il restera dans la mémoire collective comme l'homme qui aura confiné le pays.
Oui, et ça, il ne sera pas le seul.
Oui, mais ça, mais il ne sera pas le seul. Mais c'est le seul à qui on attribuera cette image. Et vous savez, quand vous avez fait subir, même pour le bien d'eux-mêmes, de telles contraintes à un peuple, ce peuple ne se sort jamais de l'esprit. C'est peut-être ingrat parfois. Regardez ce qui est arrivé. Vous citiez Churchill, vous citiez De Gaulle. Et De Gaulle et Churchill. De Gaulle et Churchill ont sorti leur pays par le haut d'une crise de la Seconde Guerre mondiale et finalement ont été ensuite balayés par les élections qui ont suivi parce que d'une certaine manière, les populations voulaient passer à autre chose, à une autre séquence.
Changer les idées.
Et je pense que le principal risque pour Emmanuel Macron, ce n'est pas aujourd'hui les décisions qu'il prend, c'est cette image qu'il va avoir dans les Français et peut-être cette volonté des Français. En 2017, c'était le dégagisme. Ouais. En 2022, c'est peut-être changer d'air.
Si Emmanuel Macron nous écoute sur Sud Radio, il sera tout surpris d'entendre Nicolas Corrado craindre qu'il ne termine comme Churchill ou De Gaulle. Et on peut quand même remarquer aussi...
Il faut faire des efforts, il ne faut pas insulter l'avenir. Vous
la comparaison flatteuse. Maxime Thiebaud.
Je pensais qu'on allait sur la pub, donc j'ai été pris de court.
Non, vous êtes pris de court. Revenons un petit peu sur aussi le moral des Français. Qui est quand même très important. Parce que vous dites effectivement qu'Emmanuel Macron risque d'avoir du mal à maintenir la paix civile. On peut tout à fait l'entendre. La France est très habituée, et y compris celle qu'on a connue depuis deux ans, à des manifestations. Pourtant, lorsqu'on regarde les manifestations musclées, souvent musclées, contre les restrictions liées au coronavirus, en Italie, ça a été très compliqué. En Allemagne, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, ça a été très compliqué avec 20 000 personnes rassemblées qui ont dû être dispersées par des forces de l'ordre. En France, on a eu quoi ? Francis Lalanne qui fait une vidéo pour embrasser les gens, d'une part, et un carnaval à Marseille. Les Français ont ont l'air de, n'ont pas l'air en tout cas d'être en colère, en tout cas d'exprimer leur colère dans la rue.
Maxime, il y a une résignation qui est réelle, mais c'est énorme, tous les enjeux qu'a Emmanuel Macron. Il a une crise des banlieues qui existe, hein, elle est présente. Hein. Oui. Tous les soirs, vous avez, pratiquement tous les trois jours, vous avez dans une banlieue qui flambe, avec des policiers qui sont attaqués. Il essaie de gérer cette affaire-là, et en même temps, il ne peut pas trop s'attaquer au problème. Politiquement, il se dit, si je m'attaque au problème, j'ai une crise des banlieues en plus de la crise sanitaire. Il a la crise sanitaire en plus. Il a toutes les polémiques sur l'islamo-gauchisme. Tous les débats très franco-français lui tombent dessus. Mmh. Et en plus, il s'était dit, je vais arriver à faire gérer par l'Union européenne la politique vaccinale. Et Thierry Breton est venu faire un passage sur TF1 qui était catastrophique, où en fait, il nous a dit, bah, on fait tout très bien, mais on vous fournit aucun vaccin. Mmh. Donc, aucun vaccin à la hauteur du besoin français, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que là, on fait des vaccinodromes qui sont très beaux. Hein. Mmh. On a des beaux vaccinodromes, mais on n'a pas de vaccin dedans. Donc, on va mobiliser l'armée. Mais sans vaccin. Enfin, c'est sympa. Hein. Je ne veux pas dire cette vulgarité, mais voilà. Vous avez les militaires disent va avec ta bite et ton couteau et tu verras ce que tu peux faire face à un tank allemand. Bon, bah, c'est bien mignon, mais le problème, c'est que si on n'a pas de vaccin, on ne peut strictement rien faire.
Oui, il faut que la France n'est pas plus mal dotée en termes de vaccins que l'Allemagne ou que l'Italie. Seul avantage, pour le coup, du fonctionnement européen pour acheter des vaccins et les distribuer, c'est qu'aucun pays n'est floué à l'intérieur de l'Europe.
Non mais peut-être que l'erreur politique, parce que votre question c'est est-ce que ça se joue aujourd'hui la réélection d'Emmanuel Macron ? J'ai l'impression que depuis le mois de mars, elle se joue tous les jours la réélection d'Emmanuel Macron. Chaque moment est un moment clé. L'erreur, à mon avis, du président de la République et de son entourage et de son gouvernement, ça a été, et c'est très bien résumé par la presse étrangère qui regarde la situation en France et qui voit ce moment d'inflexion, qui dit mais en fait, l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne et la France en janvier se sont dit on change de tout au tout notre politique de gestion de la crise, on met tout sur la vaccination. Ouais. Et tout le reste, tout ce qu'on a expertisé, tout ce qu'on a imposé aux populations depuis mars 2020, n'est plus la solution. Donc on ne confine plus, on leur demande d'aller dehors. Et en gros, c'est vacciner, vacciner, vacciner. Ça aurait mérité d'être expliqué. Ça aurait mérité encore une fois d'être débattu, y compris politiquement, y compris au Parlement.
Qu'est-ce que vous entendez par explication ? On a le sentiment, malgré tout, que tous les membres du gouvernement interviennent dans tous les médias, y compris Sud Radio, Clément Beaune ce matin dans le Grand Matin Sud Radio.
Est-ce qu'on a expliqué aux restaurateurs qu'ils ne rouvriront leur restaurant que quand une grande majorité de la population sera vaccinée ? Est-ce qu'on l'a dit aux gens de culture ? Est-ce qu'on l'a dit à plein de secteurs économiques qui sont affectés ? Est-ce qu'on a expliqué aux parents d'élèves que leurs enfants allaient continuer, coûte que coûte, à aller à l'école ? Et peut-être que les classes fermeront, mais qu'au final, dans le principe, les écoles seront ouvertes. Tous ces sujets-là auraient pu être expliqués autrement qu'avec des éléments de langage, des éléments d'agence de communication, des pubs qui jouent sur l'émotion, qui sont indigentes, je veux dire, indigentes.
Et pour vous, ce gouvernement fait plus mal que ne l'auraient fait d'autres gouvernements, un gouvernement de droite ou de gauche ?
Ce gouvernement ne sait pas expliquer ce qu'il fait. Mmh. Et je pense que ça vient de la méthode d'exercice du pouvoir, qui est une méthode très solitaire. Ce gouvernement ne sait pas dialoguer, ce gouvernement ne sait pas expliquer, ce gouvernement ne sait pas reconnaître que c'est difficile de poser un horizon. Moi, je suis français, je suis capable d'entendre qu'on ne sait pas aujourd'hui où on en sera en septembre. Mais j'ai besoin de savoir exactement ce que prépare le gouvernement, ce qu'il a dans la tête. Qu'il me le dise, le confinement c'est fini, on n'y reviendra plus jamais, mais on met le parquet sur la vaccination, et qu'ensuite il puisse me dire, eh ben oui, mais on a des problèmes d'approvisionnement en doses. Moi, je ne peux pas reprocher à un gouvernement de ne pas faire tourner plus vite des lignes de production de vaccins.
Et pour vous, Emmanuel Macron n'est pas pédagogue, en fait.
Mais on revient au problème d'Emmanuel Macron. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a jamais su parler aux Français. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes.
Sauf la fois où il a été élu, malgré tout.
Oui, non mais d'accord. Mais il a été élu aussi sur un défaut. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas de Marine Le Pen. Il n'avait pas un socle électoral énorme. Il y a eu l'affaire Fillon, et puis ça s'est joué à quelques centaines de milliers de voix.
Enfin, il est arrivé en tête du premier tour. Je ne suis pas en train de dire que c'est le président le plus populaire de l'histoire. Mais malgré tout,
Il a eu son moment, bien. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est que il peut pas expliquer à être franchise aux Français parce que il a pas ce logiciel-là. Il est sur un logiciel d'acceptabilité. C'est comment j'amène les gens à accepter la mesure que j'ai décidée, et non pas je vais m'installer dans le fauteuil de chef de l'État et dire aux Français on va faire comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Et ça, c'est, psychologiquement, c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, et là, pour moi, c'est viscéral, c'est-à-dire qu'il est incapable de prévoir sur le long terme. On sait que des crises virales, on en aura beaucoup, parce que la mondialisation a cette conséquence. Il y a beaucoup d'écologistes, au sens noble du terme, qui l'ont expliqué, qui ont dit que des coronavirus, des SRAS, de toutes ces maladies virales, il y en aura beaucoup.
D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on en parle. On peut faire une parenthèse. Ça fait longtemps que vous nous entendez sur Sud Radio et que vous apprenez que tant de milliers de canards sont abattus depuis des années dans le Sud-Ouest. C'est parce qu'on a peur de la grippe aviaire.
Et ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est de ne pas changer son logiciel, notamment sur les services publics de santé, en disant, bon, on ne peut pas rester sur les règles du new management public, avec des hôpitaux de flux, il faut faire des hôpitaux de stock. Il faut faire de la prévention pour être en capacité d'avoir tant de lits de réanimation, parce qu'on sait que ça marche comme ça. Et je pense que
Vous pouvez m'expliquer en deux termes, pour le béotien que je suis, le béotien, hôpital de flux et hôpital de stock,
c'est simple, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une grosse dépense publique, même si elle ne répond pas à un besoin qui existe immédiatement, mais parce qu'on prévoit une crise future. Un hôpital de flux, c'est un hôpital qui répond aux besoins courants, qui vient souple. C'est l'ambulatoire, des lits d'hospitalisation.
C'est ça. Dont les moyens peuvent augmenter très fortement.
Augmenter, oui, mais le problème, c'est que c'est du stock que d'avoir des lits de réa. Parce qu'il faut former le personnel, et c'est un personnel qu'on n'a pas besoin en temps normal. Et ça, il se le refuse. Mais s'il était là en disant, déjà, je vais avoir une politique là-dessus, les Français se diraient, tiens, il investit sur le long terme, sur l'hospitalisation, dans le cas de crise sanitaire. Si derrière, il disait, le Covid... Parce que la mortalité dans cette situation sanitaire, elle est sur deux plans. Le virus, premièrement, mais elle est sur les comorbidités aussi. Oui. Et ça, il ne répond pas à la question de la comorbidité. L'obésité, le diabète et tout ça. Et il ne répond pas à cette question-là. Et paradoxalement, le couvre-feu et le confinement entretient la comorbidité, et en tout cas les développe sur le long terme, plutôt que ne lutte contre ces dernières.
Nicolas Corato.
Oui, moi, je maintiens que Emmanuel Macron a pris une décision qui est plus qu'un pari pour la présidentielle. C'est une décision d'inflexion de notre politique de réponse à la crise sanitaire qui nous engage tous. Je suis incapable de vous dire s'il a pris la bonne ou la mauvaise décision.
Non, mais vous n'avez pas confiance.
C'est pas que j'ai pas confiance.
Vous êtes pas très serein.
C'est que j'aurais aimé qu'il y ait un débat sur la prise de cette décision. On est peut-être un des seuls pays où il n'y a pas de débat. Notre stratégie sur la manière de gérer cette crise. Et je pense que quand nous sortirons, et je l'espère, nous sortirons un jour de cette crise, il faudra se poser la question notamment du rôle du Parlement pendant toute cette séquence qui, à part voter des lois d'état d'urgence, à part voter des lois d'exception et de donner la possibilité au gouvernement de nous gérer, de nous organiser, de nous gouverner par ordonnance, n'aura absolument rien fait d'autre.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grands procès, publié chez Eredium. Merci à Maxime Thiébaud, docteur en droit, élève avocat et auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle chez VA Presse. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai, toujours sur Sud Radio, mais avec les entrepreneurs. Pour trouver dans un instant Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.